Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel et j'accompagne avec enthousiasme des sportifs amateurs dans la réussite de leur projet d'endurance depuis plus de 10 ans. Du 10 km à l'Ultra Trail en passant par le Marathon ou la Spartan Race. J'ai également été membre du staff de l'équipe de France de ski nordique de 2013 à 2023 et eu la chance d'être olympien 3 fois. Pour terminer, je suis auteur du livre La prépa physique de l'endurance disponible sur prépa-endurance.com. Le sujet me passionne et c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je reçois coach, préparateur physique, kiné, sportif pour parler autour de ce vaste et passionnant sujet. L'esprit de ce podcast est de rendre l'information simple et accessible à tous. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Olivier Coupa. Alors Olivier est entraîneur de l'équipe de France de course d'orientation. On s'est connus il y a super longtemps, du temps du Team Salomon en ski de fond. Mais Olivier, je te laisse te présenter ton parcours, ta pratique, qui tu es un petit peu.
Voilà, merci Nico. Bah, c'est une première pour moi de participer à un podcast. Ouais. Donc c'est assez sympa, on verra si l'exercice se passe bien. Mais voilà, moi je suis cadre technique à la Fédération Française de course d'orientation. Et ça va faire 25 ans maintenant. Et du coup, mes missions principales, en effet, c'est d'être entraîneur. Alors, ouais. Je suis entraîneur au Pôle France course d'orientation Loire. Mm-hmm. Et j'ai l'équipe de France junior de course d'orientation en charge, quoi. Et okay. Je fais ça, ces deux missions principales, je les ai depuis 2000. Donc, okay. J'attaque ma 23e année sur ces deux-là, mais je m'en lasse pas. Je me fais toujours autant plaisir dans ces deux missions principales que j'ai. Ouais. Mais voilà, après, c'est vrai que mon parcours, j'ai été athlète de haut niveau dans les années 90, quoi. Bon, j'ai bientôt 50 ans, hein, cette année. Ouais. Et du coup, j'ai eu quelques petites péripéties de parcours parce que j'étais assez prometteur. À l'âge de 23 ans, j'ai atteint le top 10 mondial en 9e place au championnat du monde de course d'orientation. Ouais. Et puis, il s'est arrivé que quelques temps après, je crois que ma meilleure place était une 6e place en Coupe du Monde. Et 15 jours après, j'ai fait une chute à VTT et je me suis brisé la rotule en 4. Oh, putain, et ouais. Voilà, ça a été la fin de ma carrière derrière. Mmh. Mais voilà, j'étais passionné par le haut niveau, par l'entraînement. Je me questionnais beaucoup, je testais des choses et j'ai essayé de comprendre. Alors, c'est vrai que j'ai eu une formation STAPS. Ouais. Hein, je voulais aller vers le professorat de PS. Et puis, voilà, c'est cette passion, en fait. J'ai essayé de repartir hein, après, pendant un an ou deux, après ma blessure. Et puis, je voyais bien que mécaniquement, je ne pourrais pas recharger, enfin, avoir les doses d'entraînement nécessaires pour atteindre le plus haut niveau mondial, quoi, mm-hmm. Que je touchais du doigt, mais donc j'ai jamais pu atteindre. Et du coup, j'ai tourné la page et j'en ai profité pour me former à l'INSEP et puis il y a eu l'opportunité de passer le professorat du sport. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la profession d'entraîneur.
Ouais. Voilà, 25 ans d'entraînement bientôt.
Exactement, exactement. Alors, c'est vrai que bon, ça pourrait paraître surprenant aussi de se dire j'ai gardé les mêmes missions pendant 23 ans maintenant, mais j'aime bien former des athlètes en fait. Ouais. Être au contact avec les jeunes, je trouve que c'est des âges. Alors, les jeunes que j'ai, du coup, ils ont entre 18 et 20 ans avec les juniors, mais même étant entraîneur du Pôle France, j'ai des seniors qui en ont jusqu'à 27, 28 ans qui sont déjà dans la vie professionnelle aussi, quoi. Okay. J'aime bien transmettre, et puis c'est des âges chez les jeunes où c'est des éponges, quoi. Ils ont envie d'apprendre, et puis c'est vrai que tu leur apportes, tu peux leur apporter les bases de leur future carrière, une certaine culture du haut niveau aussi pour qu'ils se construisent comme athlètes, quoi. Mmh. Avec au bout du bout, c'est vrai que le but, c'est de les faire devenir autonomes. en tant qu'athlète. Et c'est vrai que j'ai eu un entraîneur aussi dans mes jeunes années qui disait que le meilleur entraîneur, c'est soi-même, quoi. Et donc, leur apprendre à s'entraîner, le pourquoi du comment, pourquoi on fait telle planification, pourquoi on met telle séance à tel moment. Pour que, en fait, nous, en course d'orientation, c'est vrai que ce n'est pas un sport, je dirais, où on peut en vivre hein, plus tard, professionnellement, ou alors c'est une minorité. Mais du coup, ils sont amenés plus tard à quitter le Pôle France à un moment donné ou un autre de leur carrière. Et c'est justement plus tard, en tant que senior, ils puissent avoir les billes pour être leur propre entraîneur, quoi. Parce que bien souvent, ils se retrouvent en Scandinavie ou loin des structures que la fédération a pu mettre en place. Et du coup, qu'ils puissent continuer, vu qu'on est sur des sports à maturité tardive, hein, qu'ils puissent continuer à s'entraîner et performer au plus haut niveau, quoi.
Mais
Voilà, voilà.
c'est marrant ce que
Ouais.
tu dis parce que moi je me suis jamais autant éclaté que les 4 saisons que j'ai fait avec le groupe junior de l'équipe de France justement parce que tu en fait tu les c'est ce que tu dis aussi tu leur donnes des billes, tu les vois grandir et ça c'est vraiment chouette et maintenant que je suis revenu sur la Coupe du Monde sur d'autres missions et que eux sont montés, tu les retrouves, tu repenses aussi à ce qui se passait il y a 5 6 ans en arrière quand tu leur faisais faire une planche de gainage et qu'ils avaient mal aux épaules au bout de 15 secondes, d'où ils partaient quand ils avaient 15 ans, et tu les vois plus tard. Enfin, c'est quand même super chouette.
Ah, mais tout à fait,
C'est
c'est
génial.
vraiment, c'est, enfin, moi je m'éclate toujours, toujours là-dedans, quoi. Et puis, bon, il faut pas le cacher aussi, je veux dire, le métier d'entraîneur auprès des équipes de France, il faut trouver aussi un équilibre aussi, un équilibre de vie au niveau familial notamment. Donc, on a 3 enfants. Et du coup, c'est vrai que je dirais que la charge de voyage, de stage, en étant sur un pôle ou sur une équipe nationale senior, elle est quand même beaucoup plus importante, quoi. On est beaucoup moins là à la maison. Et du coup, c'est vrai que ça a pesé aussi dans la balance, quoi,
Après,
hein.
t'as trouvé la solution parce qu'avec une femme qui est en équipe de France de ski et 2 enfants qui sont en équipe de France de ski, tout le monde est dans le sport et tout le monde est en déplacement. Donc, t'as trouvé la solution. Ça s'est trouvé tout seul. Hein. C'est une famille de cassus, comme on dit.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai style de vie, quoi, qu'on a à la maison. Alors, c'est vrai, comme tu l'as dit, à un moment donné aussi, quand les enfants étaient un petit peu plus jeunes, qui pratiquaient pas à haut niveau, on va dire, on a pu faire quelques années, on s'est connus avec ma femme, on a pu faire des années de longue distance, quoi, en ski nordique. Et c'est vrai que c'est pareil, c'était relié aussi la passion à mon métier, parce que c'était tester aussi sur soi son hygiène de vie, tester le type de séance qui pouvait fonctionner, être optimale pour pouvoir, malgré une vie professionnelle chargée à côté, hein, ma femme, elle est professeure des écoles, arriver quand même à titiller, on va dire, les devants de la scène sur les longues distances, quoi. Et puis, plus tard, après, voilà, et là, ça fait maintenant, peut-être 5-6 ans qu'on a arrêté les longues distances pour pouvoir suivre les enfants, du coup, chacun son tour, quoi. Et du coup, là, maintenant, c'est plus l'hiver, hein, les accompagner sur les Samsung, et les avoir entraînés ces dernières années. Puis, maintenant qu'ils sont les 2 plus grands en équipe de France, continuer de les voir progresser, quoi. Puis on a encore la plus jeune à la maison. Et voilà, et du coup, les accompagner la dernière vers le haut niveau, vu qu'elle a l'air motivée aussi, quoi.
Mais ça doit pas être évident comme positionnement en tant que papa coach de métier, hein, d'une équipe de France qui est pas de ski, mais trouver l'équilibre entre rester dans le rôle du père et rester dans le rôle de l'ancien entraîneur, je pense que c'est pas forcément évident, non?
Ouais, après, pour les plus grands, je dirais que c'est maintenant un petit peu plus simple, dans le sens où ils ont leur entraîneur référent. Et puis, moi, j'ai ça d'un regard, extérieur, on va dire. Ouais. Je suis toujours curieux parce qu'il y a toujours des choses à apprendre pour mon métier aussi. Donc, je m'enrichis aussi de leurs pratiques. Et puis, ouais, après, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut, faut faire la part des choses. Ce qui n'est pas toujours évident, oui, c'est des fois à la maison d'arriver à parler d'autre chose que de l'entraînement, de ce qu'il y a à faire. Mais je dirais que même étant plus jeune, peut-être, ils nous voyaient, ma femme et moi, du coup, aller à l'entraînement. Ils ont toujours baigné là-dedans. Et puis, voilà, c'est, nous, notre leitmotiv, c'est vraiment qu'ils y prennent du plaisir et qu'ils s'épanouissent. Okay. Donc, on ne les a jamais poussés à faire ça. Alors, bien sûr, les chats ne font pas des chiens. Quand tu vis dans une atmosphère comme ça, dans perpétuellement dans cette culture-là, on va dire, hein, du haut niveau, forcément, bah, je pense que tu y prends goût, quoi. Mais du coup, voilà, on a jamais fait comme une contrainte ou les pousser vers ça, quoi. C'était vraiment leur volonté, quoi.
Ok. Alors, okay.
Du coup, le positionnement, je dirais que était là. Et puis, il y a le fait aussi qu'on habite pas forcément non plus dans les Alpes ou dans le Jura, enfin dans un massif, on va dire, où il y a une grosse culture du
ski nordique,
du ski nordique, et du coup, ben, on est un petit peu éloigné de tout ça, et je veux dire, les copains, comment dire ça, on baigne tout le temps dans le milieu du ski ou de l'entraînement. Bon, ben ça, d'être un petit peu extérieur à tout ça, ça permet aussi que, je veux dire, ils sont jamais allés en structure, ils sont jamais allés en pôle. Ils ont voilà, ils sont partis de la maison après leurs années lycée, quoi. Donc, okay. Il y avait aussi moins de pression, on va dire, étant jeune, par rapport à l'entraînement, à la concurrence déjà à l'intérieur d'un comité, quoi.
Ouais, mais ça montre quand même que, on terminera la petite parenthèse là-dessus, mais c'est intéressant, ça montre quand même que tout est possible, entre guillemets, parce que des athlètes du Massif Central en équipe de France de ski de fond, du Forêt, je ne sais pas depuis combien de temps il n'y en avait pas eu, mais ça montre que si on fait les choses intelligemment et peut-être si on laisse du plaisir sans mettre la pression à des jeunes, tout est possible si on a les qualités de base, en tout cas.
Ah ouais, on est d'accord. Après, je pense que aussi le fait qu'on connaisse le système, on connaisse aussi les moyens pour arriver en termes d'entraînement, de planification, ça joue aussi dans la balance, quoi.
Justement, on va y venir à la planification, mais avant, justement, je te demanderai la question récurrente, ta définition de l'endurance en quelques mots.
Alors, la définition de l'endurance, c'est vrai que c'est, je vais peut-être pas être très original, moi je la relie forcément majoritairement à mon métier et du coup à la compétition. Et l'entraînement, bah, du coup, pour moi, c'est vraiment maintenir le plus haut niveau d'intensité d'effort selon la distance ou le temps de course, quoi.
Okay.
C'est clair que... Et bon, il y a aussi le terme endurer qui, pour moi, a quand même un lien fort avec les capacités mentales à durer et quand même à se faire mal, quoi. Mais ça reste un terme très vaste parce qu'on pourrait le relier aussi à l'entraînement pur et à la santé, dans le sens où ces dernières années, on voit quand même un fort, enfin, c'est l'endurance, c'est aussi un moyen puissant d'augmenter ses capacités physiques, quoi.
Ouais.
Je pense notamment à l'endurance fondamentale et l'entraînement en endurance fondamentale qui est tout bénef pour sa santé personnelle aussi, quoi.
C'est marrant parce que moi, pour suivre peut-être un peu plus que toi le sport santé de l'extérieur, il y a un retour en grâce de l'entraînement à basse intensité depuis quelques années. Qui n'avait jamais été abandonné, mais on va y revenir dans le sport de haut niveau, en tout cas dans les sports d'endurance, mais même sur monsieur, madame, tout le monde, il y a un gros retour en avant après la grande mode du tout à haute intensité, de l'entraînement à basse intensité. Et c'est assez rigolo que tu parles de ça, parce que la tendance, elle est aussi là-dedans. Les gens se sont peut-être rendus compte aussi que de se tirer sur la couenne en permanence, c'était pas viable sur le long terme.
Oui, tout à fait, t'as entièrement raison. Et moi, c'était une de mes évolutions personnelles là, ces dernières années. C'est que je me suis... Ben voilà, les enfants ayant quitté la maison, un petit peu plus de moins de charges familiales, on va dire, Du coup, je me suis remis dans pas mal de formations,
Ouais.
notamment les formations INSEP après Manon avec Laurent Schmitt. Donc,
Ouais.
je suis parti sur la variabilité cardiaque, j'ai enchaîné avec l'hypoxie, enfin, l'entraînement à la chaleur, tout ça. Et tout à fait, ça m'a permis de comprendre ouais, tout l'intérêt de l'entraînement, comme tu le disais, à basse intensité et les mécanismes physiologiques sur le corps pour développer sa santé. Tout simplement, quoi. Voilà.
Ok. Et justement, chez les orienteurs, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, l'entraînement d'un orienteur d'ailleurs. Parce que quand on discutait avant le podcast, tu me disais qu'on a à mi-chemin entre l'athlétisme et peut-être le ski nordique ou en tout cas l'outdoor. Et je pense que ça doit être intéressant à trouver le compromis. Et comment toi tu fonctionnes avec eux?
Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un questionnement que j'ai eu pendant toutes ces années, surtout ces 23 ans.
Ouais.
Au départ, je dirais que, alors on va dire que ça, là, on est plus sur le versant au niveau des intensités de travail à l'entraînement, quoi, et la répartition de celle-ci. C'est vrai
Ouais.
que, de par ma culture, ben, voilà, j'avais ma femme qui était en équipe de France. Si on remonte un peu dans l'histoire, ils avaient eu un Norvégien au départ. Donc, c'était quand même beaucoup de volume lent à basse intensité. Et ça, c'était déjà dans les années 2000, quoi, hein, on va dire, même avant 2000, dans les années 90.
Ouais.
Donc, du coup, au départ, moi, j'ai été beaucoup influencé, jeune entraîneur, on va dire, par ces méthodes d'entraînement. Puis aussi, bah, en France, forcément, on a une forte. Dans la course d'orientation, on a quand même beaucoup d'athlètes qui viennent de l'athlétisme, donc
Ouais.
qui font les deux, qui pratiquent les deux, on va dire, le cross et le demi-fond. Et c'est vrai que ça n'a jamais été simple de se positionner, enfin, je me suis toujours questionné de savoir la part de la haute intensité et de la basse intensité dans l'entraînement, quoi. Et c'est vrai qu'on a toujours été entre les deux. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a quelques années, il est arrivé un nouveau format de course en course d'orientation. C'est le format urbain qui se
Ouais.
fait. Donc, c'est la pratique de la course d'orientation qui est en ville, hein, en parc, donc principalement en ville.
Ouais.
Donc, du coup, sur un sol dur, sur le goudron, et puis sur des formats plus courts, donc 10 à 15 minutes, quoi. Et du coup, qui nécessite une vitesse de course plus importante qu'en forêt. Donc, du coup, c'est vrai que bah, on s'est questionné, puis on s'est rapproché peut-être un petit peu plus de l'athlétisme et du coup de leur méthode d'entraînement.
OK.
Et bon, et bah, du coup, au bout du bout, je dirais que mes années de formation et d'évolution aussi. Nous ont fait prendre plus le chemin, on va dire, on va dire là, ce qui est un terme un petit peu plus, la polarisation de l'entraînement. Donc,
Ouais.
on est vraiment sur ce registre-là en matière de course d'entraînement de l'élite, hein, en course d'orientation.
OK.
Et puis, bon, c'est vrai qu'on est influencé aussi par les Scandinaves, hein, forcément, dans notre discipline. C'est les Suédois, les Norvégiens. Les Finlandais qui sont dans les meilleures nations, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, ça a toujours été ce modèle scandinave très polarisé. Ou pyramidal, parce que alors maintenant que ça revient à la mode, l'entraînement, on a l'impression qu'il y a un énorme distinguo entre le polarisé et le pyramidal, alors que c'est la même trame, hein, c'est du
Ouais, on est
80-20.
d'accord. On est d'accord.
Après, les gens vont pinailler pour pas grand-chose, en fait. Mais peu importe, pour en
Non,
revenir
mais
à ça.
je te rejoins. Nous, on fait depuis 1 ou 2 ans, on fait un petit peu plus de pyramidal, comme tu l'entends toi, hein, mais grosso modo, c'est quand même, on est sur un entraînement polarisé, quoi.
Ouais, l'idée est la même, mais bref, on voit, il y a la pyramide de Seller, là, c'est un Norvégien,
Oui,
et
tout à fait.
qui revient sur les réseaux sociaux, qui revient avec les gens qui redécouvrent un petit peu la roue, mais culturellement, cet entraînement polarisé et tout, il a toujours été adopté par et les Scandinaves, et d'ailleurs tous les sports d'endurance, en tout cas tous les sports d'élite d'endurance, ça reste quand même quelque chose, même s'il y a des variations dans l'année, qui a comment dire, qui a été utilisé de tout temps, en fait.
Ouais, c'est ça, mais du coup, je suis d'accord avec toi. Mais il faut dire que nous, avec l'influence de l'athlétisme, notamment, je dirais peut-être plus de l'athlétisme français et de son mode
Le fonctionnement, ouais.
de fonctionnement et de formation, ben, en fait, moi, je ne m'y retrouvais pas forcément, quoi. On va le dire, hein, c'est le traditionnel, mardi soir, VMA courte, jeudi, VMA moyenne, et puis samedi, fartlek, on va dire. Un petit peu prépa cross, un petit peu plus long, quoi. Toi, avec trois grosses intensités dans la semaine et très peu de volume à côté, quoi. Ou ce qu'on appelle communément, ils appellent le tempo, on va dire l'allure entre les deux seuils, quoi.
Ouais.
Et bon, bah, ça, du coup, ouais, on s'en est éloigné, quoi.
Et ce qui en soi est peut-être pas inintéressant, parce que moi je suis pas expert en athlétisme pour préparer un athlète de la discipline d'athlétisme, mais à nuancer aussi pour des gens, comme toi tu dis, il y a les jeunes, c'est une chose, mais chez des gens qui ont un boulot à côté, te recoltiner trois séances à haute intensité dans la semaine. Je ne sais pas si c'est durable et je ne sais pas si c'est tenable, par exemple.
Ouais, ben disons que tu as de très gros progrès
Ouais.
rapidement, mais
Oui.
sur la durée, sur le long terme, j'en suis pas si sûr en fait. Ben, si, je le sais, enfin, je suis convaincu que c'est pas forcément la bonne méthode, quoi. Que justement, une répartition des charges plus appropriée. Puis c'est dur mentalement, comme tu dis, soit si tu bosses et tout, d'aller s'encaper trois grosses séances. Par semaine, et ça dans ta préparation, pour moi, hivernale, hein, on est d'accord, hein, alors qu'il faudrait peut-être plus privilégier le volume. En fait, voilà, pour moi, c'est du court terme, moyen terme, mais sur le long terme, sur la progression et la formation d'un athlète, d'un jeune athlète, pour qu'il ait toutes les billes plus tard pour percer à très haut niveau, c'est limité, quoi. Enfin, en tout cas, on s'en est détaché pour justement aller plus vers un modèle scandinave polarisé qui porte pour l'instant, même moi empiriquement sur des temps aux 3000 où on a des petits tests comme ça, apporte des progressions, quoi. Certaines, et puis on a régulièrement des tests tapis, tests de seuil lactique, de max, et on a des grosses progressions depuis qu'on a adapté plus ce modèle.
Et pour situer un orienteur hein, sur un 3000 mètres, il tourne à peu près en combien?
Ben, nos meilleurs, ils sont à 8, ils sont en dessous de 8,30.
Ouais.
Grosso modo, voilà, c'est ça. Meilleurs coureurs sont que j'ai au pôle, en tout cas, ils sont à 8,30. Chez les filles, en dessous de 10 minutes, quoi, 9,50.
Ouais, avec j'imagine une technique de course qui n'est pas forcément adaptée sur le plat.
Exactement, sans préparation spécifique piste, quoi. On en fait très peu, et notamment ces 2 dernières années où bah, justement, moi, je suis toujours un peu à l'affût, toujours curieux, ben, c'est vrai qu'on suit un petit peu plus les préceptes norvégiens, notamment de Sailor, comme tu l'as dit, et d'Ingebrigtsen, et puis ce qui se fait dans le ski de fond. Hein. Moi, j'ai toujours cette influence-là, et notamment avec beaucoup plus d'entraînement au seuil ou autour du seuil, on va dire, quoi. Un peu, du seuil 2, pardon.
Oui, bien sûr.
Anciennement le seuil anaérobie lactique, quoi. Et du coup, en dessous, au-dessus, autour. Et du coup, le gain aussi, moi, que j'ai pu voir, c'est qu'on a eu beaucoup moins de blessures que quand on faisait un entraînement spécifique, on va dire plus ce que les athlètes appellent beaucoup de VMA sur piste. Et du coup, on a eu quand même des tendons d'Achille, des tendinites, voilà, des problèmes mécaniques, quoi, on va dire, au niveau de l'appareil locomoteur, pas des membres inférieurs, quoi.
Et justement, comment, alors sans rentrer trop dans le détail et sans tout dévoiler, mais sur l'entraînement d'un orienteur, donc votre prépa à l'hiver,
Ouais, c'est
et
ça.
sur ta planif générale annuelle, parce que là on parlait d'entraînement polarisé, mais dans les grandes lignes, comment vous fonctionnez sur une saison en termes de planification?
Ben nous, on a la spécificité d'avoir une très longue saison de compétition qui attaque en avril, qui se termine en octobre. Voilà. Et bon, alors après, avec des moments phares, hein, bien sûr, hein, mais donc du coup, grosso modo, rattaque la saison mi-novembre, la préparation pardon, de mi-novembre ouais. jusqu'à mars.
Ouais.
Donc, en gros, on a 4 mois et demi, 3-4 mois et demi de préparation. Mm-hmm. Là, on fait beaucoup de... Donc, on polarise beaucoup, on fait beaucoup de volume sur cette période-là, novembre, décembre, janvier, février. Volume-là, mais tout en, en gardant une grosse phase de travail, on va dire, autour du seuil lactique 2, quoi.
Ouais.
Du seuil 2. Et du coup, et derrière, bah, on va remettre plus de préparation à très haute intensité sur le mois de mars, quoi, en phase pré-compétitive, mars-avril, et pour arriver voilà, déjà avec un certain niveau de forme en avril-mai où il y a déjà pas mal des premières Coupes du Monde et où les courses de sélection quoi, qui vont déterminer tout le restant de la saison. Quoi.
Ok, et après, quand tu parles de très haute intensité, c'est type VMA ou du fartlek voilà, à allure course ?
C'est ça, VMA, PMA.
Exactement. Okay.
À allure course, voire des fois un petit peu au-dessus quand
ouais, bien sûr,
format, ouais. du format urbain. Mais voilà, exactement. Et grosso modo, bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit. En 6-8 semaines, tu peux guère plus augmenter je veux dire, tes adaptations physiologiques. Ta VO2, tu ne gagnes plus de points. Je veux dire, cardiovasculairement non plus. En 6-8 semaines, tu as développé ta très haute intensité, enfin, tes capacités à fonctionner à très haute intensité. Quoi.
Ok.
Voilà, enfin, nous, c'est ce qu'on considère, quoi, de toute façon. Et derrière, après, ben, ça va être plus que. On va remettre, je dirais, sur mois de juin. En général, les grosses compétitions, ben, pour les juniors, c'est le mois de juillet.
Ouais.
Pour les seniors, c'est maintenant aussi le mois de juillet. Donc, on refait après des rappels un
petit peu de
volume, et exactement, et puis du maintien de haute intensité, quoi, et puis un affûtage final au mois de juin, fin juin, pour être au mois de juillet. Et puis okay. après, bah, c'est vrai qu'on a maintenant un peu, il y a l'autre phase, un peu plutôt fin août et puis l'automne. Donc, bon, bah, là, c'est vrai qu'on profite de l'été pour refaire un petit peu de volume. Après, on fonctionne beaucoup à faire pas mal de rappels, quoi.
Okay.
Après, bon, la spécificité de la course d'orientation, c'est vraiment l'aspect courir en tout terrain, quoi. Même pas sur les chemins. Et ça, c'est très énergivore. C'est une foulée vraiment spécifique où il faut être assez puissant, avoir une bonne proprioception pour se mouvoir, je veux dire, dans le terrain, quoi.
Et ouais, justement, courir sur un peu tous les terrains, tu disais que ça nécessite pas mal de puissance. Et au niveau du renforcement musculaire, c'est quelque chose que vous faites un peu, beaucoup, régulièrement, par phase ?
Ouais, alors nous, ça fait longtemps qu'on est rentré dans le système de la musculation lourde.
Ouais.
Hein, on a eu un entraîneur suisse autour des années 2010, Alain Berger, il y avait déjà un travail, je pense, au sein de la. Il faut savoir que les Suisses sont une des meilleures nations, hein, si ce n'est la meilleure nation. Chez les hommes comme chez les dames.
Okay.
Et du coup, il avait pris contact avec Jean-Pierre Hébert. Et du coup, on a eu déjà une première approche de la musculation lourde, on va dire, avec charge, en tout cas, dans les années, voilà, début des années 2010, quoi. Et du coup, on a continué à évoluer là-dessus. Donc, oui, exactement. On fait beaucoup de musculation en salle, sous charge de la force max, travail de puissance ensuite, et notamment avec les filles, hein, parce que bon, naturellement elles sont un petit peu moins puissantes que les garçons, et la course en tout terrain fait que c'est très 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 gourmand en termes de puissance et très énergivore, quoi.
Ouais.
On s'en est vraiment rendu compte au moment du confinement, où les jeunes ne pouvaient plus, ont plus aller, ils ont continué de courir,
on va
dire, dans le kilomètre autour de la maison. Mais après, quand on a fait le rebasculer en forêt, ils étaient complètement désadaptés. Et c'est vrai que c'est là où on s'est dit, vraiment, on a vraiment cette spécificité-là de courir en tout terrain. D'ailleurs, il y a déjà eu des tests de fait avec des très bons Kenyans qui n'arrivaient même pas à suivre les meilleurs orienteurs sur 400, 500. 400, 500 mètres, quoi.
Ok.
Tellement il y a une motricité spécifique, quoi, on va dire.
Mais alors, Jean-Pierre Rieger, c'est quand même une des refs dans le domaine de la musculation, de la préparation physique, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a bossé avec Alinghi, il a bossé avec les basketteurs français, il a bossé avec l'Olympique de Marseille. Mais je l'ai eu comme formateur, moi j'avais adoré. Il a bossé avec Simon Hamann, le sauteur à ski, bah avec vous, du coup.
Et puis avec la Fédé Suisse de ski de fond et de course d'orientation.
Et avec Valérie Eger. Valérie, j'ai bouffé son nom, la lanceuse de poids pendant un sacré moment. Enfin, sur la parenthèse, oui, donc vous étiez quand même parti sur de la haute qualité en termes de renforcement musculaire. Et là, on a vu un peu la planification, mais sur la programmation, par exemple, en ce moment, en phase de préparation, une semaine, même si ça n'existe pas réellement, mais un petit peu type chez un orienteur, elle va être faite comment?
On a notre semaine type parce qu'en fait, quand je les ai au pôle, ils sont tous étudiants, principalement sur l'INSA à Lyon.
Ouais.
Donc du coup, on a notre semaine qui commence le lundi par la musculation, généralement. Le mardi, c'est plutôt la séance en ce moment-là autour du seuil, on va dire.
Ouais.
Le mercredi, là, on fait du plus spécifique, ils vont en forêt, ils partent en main et on s'entraîne de nuit. Principalement, enfin, début de soirée, quoi. Le jeudi, on fait pas mal d'entraînements alternatifs. Moi, ça aussi, c'est une de mes cultures. Donc, ma culture d'entraîneur, soit du vélo de route, soit du ski de fond quand il y a de la neige. On est pas mal sur ces registres-là pour décharger un petit peu aussi au niveau fatigue, les
articulations,
exactement, les membres inférieurs, c'est sûr qu'en course à pied, c'est aussi un sport très traumatisant, quoi.
Ouais.
Et puis le vendredi, c'est la deuxième séance de musculation, et puis sur le week-end, soit on a des mini-stages où on part dans le sud de la France chercher de meilleures conditions d'entraînement, mais surtout à base de cartes en main, soit cartes en main, donc sur des terrains de présentation, quoi, en
fait. Ouais.
Soit du coup un petit peu d'entraînement, enfin un peu d'entraînement alternatif, quoi, qui permet aussi de faire du volume un petit peu plus facilement, quoi.
Ok, ouais. Et je vais revenir sur ce que tu en as parlé, je pense que c'est contexte dépendant, et tu parlais de l'affûtage en fait avant votre période en juillet, qui est super importante. Et ton affûtage avec eux, tu le gères comment, par exemple?
Moi je suis un petit peu les grands préceptes, en fait ça dépend un petit peu avec qui, hein.
Ouais.
Avec les plus jeunes juniors, j'ai tendance à mettre une dernière grosse semaine, on va dire, qui se termine à 15 jours de l'objectif.
Ouais.
Voilà. Ouais. Ça va être la semaine bien chargée où on va aller alors nous on essaye toujours aussi, on a des problématiques de technique, en fait, d'orientation.
Ouais.
Où selon se déroule la compétition, tu orientes pas en Scandinavie comme tu orientes en Espagne ou en France selon le terrain.
D'accord.
Et t'orientes pas dans le Jura comme tu orientes dans le Pila chez moi.
Ok.
C'est pas du tout il y a des stratégies, en fait.
Ok.
Voilà. Alors on essaye de se rapprocher. Déjà, on essaye d'avoir les terrains, ce qu'on appelle les plus relevant, les plus similaires possibles à la compétition, en termes de sol, mais aussi de problématiques d'orientation, quoi, de stratégie d'orientation.
Mm-hmm.
Le dernier stage, en général, voilà, un dernier bloc assez important qui a créé un petit peu de fatigue, trois semaines qui se terminent à 15 jours de l'objectif. Et puis derrière, on va garder quand même pas mal, un certain niveau d'intensité, on va dire, avec une séance à haute intensité tous les trois jours. Mais par contre, on va faire baisser le volume pour gagner en fraîcheur, quoi.
Ok.
Typiquement. Après, les plus grands, je vois avec les seniors, on a tendance à garder quand même des bons rappels de volume bas, à basse intensité. Et ça les maintient quand même bien en forme. Mais dans l'idée, toujours, de toute façon, d'arriver avec de la fraîcheur physique sur la. Parce que nous, c'est la spécificité aussi, c'est que c'est une semaine de compétition.
Ouais.
Donc, c'est 5, c'est au, au ouais. 5, 4 à 5 courses en une semaine, quoi.
Mmh.
Donc, si tu arrives déjà entamé,
Ouais,
En général, tu brilles sur la première, mais à la dernière, tu n'es plus là, quoi.
c'est pour ça qu'il y a des grands préceptes à suivre, comme tu dis. Et de toute façon, on peut jamais réinventer la roue, mais ça dépend aussi des gens que tu as en face et ça dépend de comment c'est organisé. Et je me souviens, en 2020, pour les championnats du monde junior, la stratégie qu'on avait mise en place avec le chef d'équipe, c'était justement, on n'avait pas forcément fait d'affûtage. On avait fait 6 semaines de compète début janvier. On avait coupé et on avait fait le choix d'arriver alors sur du combiné nordique activé sur les mondiaux juniors parce qu'on n'avait que 2 courses. Et en fait, on avait fait plus ou moins notre affûtage, en guillemets, notre réduction 3 bonnes semaines avant. Et après, on avait fait une remontée en charge jusqu'à l'événement. Et ça avait pas mal marché d'ailleurs. Ils avaient fait 2 médailles sur les 2 courses, mais parce que le contexte était dépendant. Et je pense que c'est important de s'y adapter aussi.
Ouais, tout à fait. Oui, il faut s'adapter, ouais, au mode du championnat, quoi, en fait, hein. C'est clair.
Et à la technique, parce que toi, comme tu dis, il y a des techniques
Tout à fait.
d'orientation. Et nous, sur le combiné, ben, il faut quand même la technique du saut à ski. S'ils ne sautent pas pendant 3 jours, on a l'impression qu'ils ont tout oublié. Enfin, j'exagère, hein, mais surtout
Non,
chez
mais
les
en fait,
jeunes,
ça
mais c'était
fait.
parti pour ça, ouais.
T'as raison. De toute façon, en lien avec ça, là, on est sur la partie un peu physio, mais t'as la partie aussi mentale, prise de confiance. Monter en puissance, c'est sûr que c'est dans l'affûtage, c'est hyper important, cette montée en confiance, quoi.
Ben, c'est ce qu'on oublie souvent, ou ce que beaucoup de gens oublient, je trouve, c'est on va raisonner que par picking physiologique, mais cette montée en confiance, le sentiment de compétence, le sentiment de
Tout à fait.
maîtriser sa technique, mais
Exactement.
à part peut-être du vélo, ben, de route, et j'en sais rien d'ailleurs, hein, où la technique est moins primordiale, mais sur 95% des sports, la technique, c'est quand même super, c'est quand même primordial, quoi. Donc ça, on a tendance à un peu l'oublier,
Ah, je pense
je
dans le
trouve.
saut à ski comme dans la course d'orientation, c'est vrai que c'est un point hyper important, quoi.
C'est sûr. Et sur toi, tu as quand même entre autres la charge du groupe junior. Et comment toi, tu abordes les choses de manière générale, en fait, pour mettre en place une construction sur le long terme?
Du coup, nous, notre philosophie à la fédération, c'est de faire des bons athlètes en senior, en fait. C'est d'être vraiment performant en senior. Alors, on va pas cracher sur une médaille en junior, hein, si elle se fait. Mais on a vraiment une logique de formation, quoi. Et je dirais que bon, ben, on n'a pas, voilà, on reste un petit sport. Du coup, on n'a pas non plus une masse d'athlètes importante. Donc, les quelques athlètes qu'on a, on veut vraiment les amener tout en haut, quoi. Donc, du coup, on va dire qu'on prend le temps avec eux. De les construire pour que, je dirais, ils arrivent au top de leur niveau à partir de 23, 24 ans, quoi, pour être performants jusqu'à 34, 35 ans, même voire un peu plus. Après, bon, c'est des parcours de vie, après, c'est différent. Mais voilà, et du coup, on prend le temps avec eux de construire, je dirais, ces bases, bah, comme je l'ai expliqué, hein, au niveau. Entraînement, construisant des bases solides d'un point de vue technique, d'une part, il y a cette maîtrise technique qui n'est pas forcément facile à acquérir, ou du moins on est un sport d'expérience, quoi. Il faut avoir vécu, être allé dans beaucoup de terrains différents, et puis on travaille beaucoup les routines techniques, hein, travail du boussole, déviation vers l'enterre, environnement du poste, enfin, c'est plein de petites techniques qu'il faut savoir maîtriser. Généralement, bah, toutes ces techniques, avant 20 ans, on ne les maîtrise pas toutes, quoi. Un athlète, c'est pareil, il arrive à maturité technique à partir de 21, 22, on dit qu'il va atteindre une certaine stabilité technique, quoi, dans ses techniques d'orientation. Donc, voilà, puis sur le plan physique, bah, c'est exactement ça. Les années juniors, elles servent à se construire, à toucher du doigt ce que c'est que le haut niveau en venant sur les compétitions internationales. Et puis du coup, après, je dirais, comme dans tout sport d'endurance, on a des canevas, on va dire, à tel âge, tu dois grosso modo être dans telle fourchette de volume de travail physique. Et puis, ben voilà, tu vois, la progression, on va dire, linéaire vers ces années seniors, quoi.
Ok. Oui, il y a aussi bien sûr, il y a aussi une notion de les préparer à encaisser l'entraînement qu'ils vont faire en senior.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Non, mais je pour l'avoir vécu aussi, je conçois tout à fait un gamin de 17-18 ans, à moins d'être un prodige, hein, ça arrive, mais tu peux pas lui mettre le même entraînement qu'un athlète de 25 ou 26 ans, d'une part parce qu'il n'est pas encore équipé pour, parce qu'il a des choses à apprendre, et d'autre part, je pense aussi, c'est que bah, s'il a déjà tout optimisé à 17-18 ans, et qu'est-ce qui va lui rester à apprendre quand ça sera le moment d'être performant? Peut-être pas grand-chose, ou ça sera ouais, peut-être plus compliqué, la marge de manœuvre.
Ouais, c'est complètement ça. Ouais. C'est aussi leur apporter ce qu'on appelle la culture du haut niveau, comme tu dis, petit à petit, ben, incorporer les aspects diététiques, de récupération, l'importance du sommeil, l'importance de l'alimentation. Bon, ben, ça vient forcément progressivement. Tu peux pas tout leur apporter à 18 ans, quoi. Et,
oui, mais on en a parlé avec Loïs Robin à Monaco, qui bosse avec les que j'avais dans le podcast, qui bosse avec les nageurs à Nice là, avec Fabrice Pellerin. Et c'est rigolo parce que nous c'était pareil chez les combinés, c'était la question à 17 ans, c'est pourquoi on fait pas du développé couché, parce qu'évidemment le développé couché c'est la force, les grands font ça, mais parce qu'il y a d'autres choses à construire avant et que bah quand on développé couché tu seras équipé pour, et surtout, il te servira à être performant, peut-être qu'on en fera. Mais lui avait le même logique de progression, où tu ne peux pas copier exactement les mêmes procédés d'entraînement, les mêmes mouvements, les mêmes thématiques que chez des adultes, parce que sinon il ne reste plus grand-chose. Après, tu as tiré sur la corde, et puis derrière, pour arriver à stimuler encore l'athlète quand il sera adulte, je pense que c'est quand même plus compliqué.
Ouais, c'est tout à fait ça. Mais nous, on a cette progression à la fois dans l'aspect musculation, dans l'aspect physio, on va dire travail physiologique. C'est tout à fait ça. Pour qu'à la fois, bah, quand ils arrivent à 23-24 ans, bah, ils soient armés au plus haut niveau pour supporter les charges qu'il faut s'envoyer à ce moment-là, quoi, hein, de toute façon, pour lutter au moins à armes égales. Mais bon, on a quand même passé un petit virage, là, je crois, quand même, ces dernières années. On avait peut-être tendance à être un petit peu trop prudent sur les charges, notamment sur les juniors. Et on a augmenté notre volume global, on va dire. Et du coup, depuis 4-5 ans, on voit qu'on a rattrapé nos retards par rapport aux Scandinaves, on va dire, quoi, aux autres nations fortes, quoi.
Je pense que oui, parce qu'en plus, sur les sports à maturité tardive de base, la maturité, elle est quand même un petit peu plus précoce au fil des années dans un peu tous les sports. Donc, tu peux pas te permettre de perdre du temps aussi, sans faire n'importe quoi. Mais ne serait-ce que pour exister, je prends l'exemple du ski de fond, mais peut-être c'est pareil dans l'orientation, de dire la maturité tardive, c'est 25, 27, 28 ans, la force de l'âge. Sauf que si t'es pas dans les groupes et si t'existes pas sur la scène internationale, même en dessous, hein, Coupe d'Europe ou des choses comme ça, quand t'as 20, 22, 23 ans, derrière, t'as beaucoup de chances de sortir des groupes. Et avec le niveau qui se densifie, c'est compliqué de s'entraîner aussi bien hors groupe ou en tout cas sans source de revenus, sans choses comme ça. Donc, tu es aussi obligé de prendre en compte ça en tant qu'entraîneur où il faut quand même être performant assez tôt, même si c'est pas l'optimal de la carrière. Il faut quand même quand même assez tôt.
Ouais, tu as tout à fait raison. Bah, nous, on a cette problématique que là, on est un sport en fait qui est très lourd au niveau logistique. Ouais. Préparer les séances, en fait.
Ok, ouais. J'imagine. Oui.
Ah, ça, c'est lourd, en fait. C'est sûr que des fois, c'est ce côté qui est usant pour les entraîneurs, en fait. Bah, il faut tracer les séances, il faut aller les préparer sur le terrain, poser des balises, la faire tourner, puis après, il y a le débalisage pour enlever la séance, même si ça, c'est souvent les athlètes qui y vont.
Mais
exactement. Mais la phase de préparation est très chronophage, quoi.
Okay.
Et du coup, ça, c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps, et tout ça pour dire que c'est difficile en fait de faire une carrière élite en dehors d'une structure, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que en Scandinavie, les clubs sont très bien structurés pour ça, pour justement tout cet aspect technique d'orientation, enfin entraînement en forêt, quoi, ou en urbain. préparation. Ouais. Mais en France, nos clubs sont moins armés, quoi. Du coup, pour faire du très haut niveau, tu es obligé quasiment d'être dans une structure, quoi. Tu ne peux pas t'entraîner tout seul de manière autonome. C'est compliqué pour atteindre le très haut niveau.
Ok.
Donc, tu es obligé de te rapprocher d'être dans une structure d'entraînement. Ouais. Mais nous, ben voilà, vu le volume d'athlètes, on essaye quand même de les garder le plus longtemps possible, quoi, tu comprends.
Non, mais je comprends tout à fait. Et en plus de ça, des athlètes, déjà, personne n'est devin, elle peut prédire dans 2 ans où ils seront. Donc, il y en a qui ont des progressions un peu fulgurantes, qui ne sont pas linéaires. Et en plus de ça, quand tu as une densité de pratiquants qui n'est pas forcément très élevée, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'aussi, pour une dynamique de groupe, il faut maintenir un nombre... Enfin, tu peux pas te permettre de griller des gens, parce qu'après, s'il te reste plus que 3 gars pour faire quelque chose, tu vas pas en tirer grand chose, justement.
Ouais, tout à fait.
Ok. Et bah, Olivier, on arrive en fin d'émission et j'ai une petite question quand même. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs pour leur pratique personnelle de leur sport?
Ouais, c'est ce qu'on a évoqué un petit peu
au tout début,
c'est-à-dire avant tout se faire plaisir, mais en calibrant leur entraînement en fait. Et notamment au niveau des intensités et de la répartition de celles-ci, quoi.
Ouais.
C'est sûr qu'on voit trop des gens, en fait, le sport pour eux, ça rime à se tirer un petit peu dessus, faire un footing, ils sont tout de suite dans les allures, comme on dit, un petit peu tempo. Mais si on arrive justement à bien calibrer, et c'est pas... très très compliqué, hein, avec un cardio fréquence mètre et 2-3 petites notions, faire un petit peu plus justement les 80% d'entraînement plutôt endurance fondamentale, hein, et puis ça n'empêche pas à côté de basculer sur un registre où on va aller un petit peu plus vite et éviter justement peut-être cet intermédiaire, quoi, qui n'est pas forcément néfaste, hein, mais où des fois, c'est certes qu'on a des sensations, mais disons que sur le long terme, si on l'utilise trop, on aura tendance à long terme à plus progresser, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est avant tout ça, quoi, essayer d'arriver à calibrer un petit peu son entraînement.
Mais en fait, c'est quand même c'est important que tu dises que c'est pas compliqué, je trouve, parce que pour les gens, on peut avoir l'impression surtout que les gens, après, il faut vendre. Hein, donc, propose des protocoles compliqués. Alors, il y a des testings, il y a des choses comme ça. Mais par exemple, quelque chose qui est très simple à mettre en place, c'est de se dire, tu dis 80% du temps, mais 80% du temps, ça correspond à une séance sur 5, par exemple. Eh ben, pour quelqu'un, il va se dire je fais 4 ou 5 séances tranquillement, et puis après derrière, si je veux lasser les chevaux, j'y vais à la 5e séance, et qu'inclut tout, qu'inclut le renforcement, qu'inclut ce qu'il va faire à côté, qu'inclut beaucoup de choses,
hein. Oui, c'est ça, mais oui, puis c'est surtout je dirais, si tu connais ta fréquence cardiaque maximale, après tu as juste à travailler, je dirais, pendant en dessous de 70-75% de cette FC max pour tes séances tranquilles. Et pour tes séances un petit peu autour du seuil, tu vas te mettre à autour de 85-90%, on va dire, quoi.
Ouais.
Et puis, si tu as envie de lâcher les chevaux, comme tu dis, aller monter un petit peu plus haut, quoi.
Ouais, mais c'est ça. Mais en plus, soit pour connaître ta fréquence cardiaque maximale, tu peux faire un test. Avant de faire ce test-là, je le conseille aux gens comme d'aller chez le médecin, voir s'ils sont en état. Et puis après, alors oui, les formules théoriques, c'est peut-être pas génial, mais la formule de Gaelisch, par exemple, c'est pas la perfection, mais pour quelqu'un qui débute, ça lui donnera sa fréquence cardiaque maximale théorique, ça lui donne un peu ses zones à pas dépasser. C'est déjà une bonne partie du boulot de fait. Et puis à côté de ça, tu as les indicateurs de ressenti, tu es capable de parler. Il y a de fortes chances que tu sois dans la bonne zone. Tu vois, il y a pas mal de choses simples à mettre en place et sans que les protocoles soient ultra compliqués, en tout cas.
Et du coup, moi, je trouve que derrière, moi, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, hein, dans ma pratique personnelle, on va dire santé ou un petit peu entraînement. Ben, pour le boulot, aller poser les balises, suivre les jeunes à l'entraînement en forêt ou suivre mes enfants aussi dans leurs entraînements. Hein.
Tu y arrives encore?
Ah, j'y arrive quand c'est justement quand c'est de l'endurance fondamentale.
Ouais.
Enfin, l'aîné, voilà. Après, les filles, ça va encore un petit peu quand il y a de la haute intensité. Mais bon, il y en a plus pour très longtemps, pour ce qui est proche. Mais voilà, et je dirais que, voilà, comme tu l'as dit, en se connaissant un peu avec des choses simples, et je trouve qu'on se fait beaucoup plus plaisir. Et on ne se dégoûte pas du sport, quoi, en fait. Du sport d'endurance, on va dire. Parce que c'est le thème quand même de ton podcast.
Ok, bah écoute Olivier, merci beaucoup en tout cas, c'était chouette. J'espère que tu as pris du plaisir aussi.
Ouais, exactement. Je te dis, c'était une première expérience bien sympa.
Ah, tu t'en es bien sorti. Allez, au revoir à tout le monde.
Salut Nico. Au revoir tout le monde.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.